Les cours du Collège de France, Léa Huppy, chère l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
Bonsoir, je voudrais commencer cette conférence par une lecture tirée d'un livre publié il y a bien des années, mais qui semble avoir été écrit pour nous. Je commence. Il nous était réservé de revoir, après des siècles de guerre sans déclaration de guerre, des camps de concentration, des supplices, des spoliations massives et des bombardements des villes sans défense. Tous actes de bestialité que les 50 dernières générations n'ont pas connus et que les futurs, espérons-le, ne souffriront plus. Et paradoxalement, dans le temps que notre monde reculait moralement d'un siècle, j'ai vu cette même humanité s'élever par l'intelligence et la technique à des prodiges inouïs, dépassant d'un coup d'œil tout ce qui avait produit des millions d'années. La transmission instantanée de la parole terrestre sur toute la surface de notre globe et par là même tout notre espace vaincu. La division de l'atome, les plus insidieuses maladies victorieusement combattues, la réalisation presque journalière de ce qui hier encore semblait impossible. Jamais, jusqu'à notre époque, l'humanité dans son ensemble ne s'est révélée plus diabolique et n'a accompli tant de miracles qu'il égale à la divinité. L'auteur de ces mots a remis le livre qui le contient à son éditeur le 17 février 1942, 5 jours avant de se suicider. Ce livre s'intitule « Le monde d'hier ». Il a été écrit par un homme en exil, observant le monde qu'il avait connu s'effondrer dans la barbarie. Cet homme s'appelait Stefan Zweig. Le paradoxe qu'il identifie, régression morale et progrès technologique simultanés, n'est pas accidentel. Il définit à la fois l'évolution capitaliste et les structures politiques qui émergent pour y répondre. Les mêmes forces qui compriment l'espace et le temps, qui rendent pour la première fois imaginable une solidarité véritablement mondiale, sont les forces que le capitalisme met au service de l'exploitation et que le nationalisme redirige vers la destruction mutuelle. « Contre ma volonté, écrit Zweig, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu'atteste la chronique des temps. » Jamais, je ne le note point avec orgueil, mais avec un sentiment de honte, une génération n'est tombée comme la nôtre d'une telle puissance intellectuelle dans une telle décadence morale. La Vienne habsbourgeoise de l'avant la guerre, comme la Salonique ottomane que la famille de ma grand-mère avait connue, comme beaucoup d'autres centres impériaux, était complètement cosmopolite, multilingue, multiethnique, des villes dans lesquelles la circulation des idées à travers les frontières nationales et linguistiques avait produit l'une des concentrations les plus remarquables de la vie culturelle et intellectuelle de l'histoire européenne. Ma grand-mère considérait comme une des plus grandes tragédies de sa vie le traité de Lausanne, le premier traité mettant fin à la Première Guerre mondiale, qui a finalement démantelé ce qui restait de l'Empire ottoman. Un vaste empire multiethnique, l'empire ottoman, comme l'empire habsbourgeois, comme l'empire russe, qui avait contenu pendant des siècles une extraordinaire variété de peuples, de langues et de modes de vie. À sa place, le traité de Lausanne a consolidé un nouvel ordre d'État-nations distinct et a prescrit un échange de population obligatoire qui forçait tous les orthodoxes d'Asie mineure à se déplacer vers la Grèce et tous les musulmans de Grèce à se déplacer vers la Turquie, dans l'effort d'accomplir ce que le diplomate britannique Lord Curzon appelait le démélange des peuples, la création d'une nouvelle Europe d'États-nations homogènes. C'était un principe étranger au monde d'hier que décrit Zweig et que la famille ottomane de ma grand-mère avait vécu. Soudain, les forces d'extrême droite en pleine ascension à travers l'Europe faisait dépendre la sécurité d'une personne de la réponse à une question simple. Qui êtes-vous? Êtes-vous grec, turc, albanais, bulgare, juif? Où est votre maison? Dans la famille de ma grand-mère, tout le monde parlait français, comme tous les aristocrates le faisaient à l'époque, et la maison, le foyer, la patrie n'étaient pas un lieu, mais une idée. L'idée de la Révolution française avec la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais ce cosmopolitisme avait aussi un caractère de classe. C'était le cosmopolitisme de l'élite instruite, du club littéraire, de la salle de concert, du salon de discussion. Il n'était pas accessible à ceux qui ne savaient ni lire ni écrire et qui n'avaient ni pouvoir politique ni sécurité économique pour se battre pour quelque chose au-delà de la simple survie. Et quand le nationalisme est venu détruire ce cosmopolitisme, le projet n'avait aucune légitimité populaire pour ouvrir une voie alternative vers les institutions démocratiques. C'est précisément le point de départ de l'une des critiques socialistes les plus puissantes du cosmopolitisme. Écrivant dans sa cellule de prison en Italie fasciste, l'intellectuel et militant marxiste Antonio Gramsci a identifié la fonction cosmopolite des intellectuels non pas comme une réalisation universelle, mais comme un symptôme d'échec politique. En ce qui concernait l'Italie, écrivait-il, la fonction cosmopolite de ces intellectuels était à la fois cause et effet de l'état de désintégration dans lequel la péninsule était restée pendant des siècles. L'intellectuel italien, qui s'identifiait à la civilisation européenne plutôt qu'à la formation nationale populaire, d'où devrait venir la véritable transformation politique, ne transcendait pas la particularité. Il l'esquivait. Son cosmopolitisme, selon Gramsci, était une forme de détachement de classe, une façon de flotter au-dessus des formations culturelles et politiques concrètes dans lesquelles la lutte devrait avoir lieu pour être efficace. Son point de vue n'était pas que la solidarité transnationale était fausse, mais que le cosmopolitisme abstrait, proclamé comme aspiration morale détachée des forces concrètes qui façonnent le développement historique et les rapports du pouvoir entre les différentes classes sociales, est politiquement inefficace. La solidarité authentique se construit par le bas, à travers le travail des intellectuels enracinés dans des formations culturelles et politiques spécifiques. Alors, le défi de Gramsci nous aide à poser la question centrale de cette leçon. Quel type de politique cosmopolite est nécessaire pour dépasser la dimension purement morale du socialisme moral? Est-il possible d'offrir une vision de la politique transnationale qui émerge des conditions structurelles de la domination capitaliste et peut-être ancrée dans des principes du droit que nous avons développé dans ce cours? Je veux soutenir que la réponse est oui, mais y parvenir nécessite de travailler à travers trois séries d'arguments. Le premier concerne l'analyse structurelle du capitalisme comme système mondial qui montre pourquoi le cadre de l'État-nation ne peut plus répondre aux dynamiques de l'accumulation mondiale du capital et pourquoi un socialisme organisé exclusivement sur une base nationale sera toujours déjoué par la capacité du capital à se délocaliser au-delà des frontières. Le deuxième argument concerne la relation entre l'identité nationale et l'organisation politique. L'argument que les communautés nationales sont très importantes, mais qu'elles peuvent être affirmées et protégées sans l'État-nation. À ce compte-là, nous devons être capables de séparer le nationalisme des États-nations et de comprendre que le capitalisme, loin d'être l'ami de l'épanouissement national, subordonne structurellement les groupes culturels plus faibles aux plus forts. Le troisième argument concerne le lien avec les principes du droit développés dans ce cours. L'argument que le cosmopolitisme n'est pas un ajout au socialisme moral, mais en découle nécessairement que les mêmes principes de liberté, égalité et indépendance qui génèrent la critique du capitalisme génèrent aussi, lorsqu'ils sont appliqués au-delà des frontières de l'État-nation, une conception cosmopolite de la justice. Alors commençons par le premier argument. Le premier défi, un socialisme ancré dans l'État-nation, vient d'une analyse du capitalisme comme structure de coopération mondiale. Et pour comprendre pourquoi, je voudrais évoquer un débat qui a secoué le mouvement socialiste au tournant du XXe siècle. Le débat entre ceux qui croyaient que le capitalisme pouvait être progressivement réformé à travers l'expansion et la radicalisation de la démocratie parlementaire et de l'organisation syndicale dans les États-nations, et ceux qui soutenaient que cette stratégie comprenait fondamentalement mal la structure dynamique du système qu'elle cherchait à transformer. Le débat a été déclenché par Eduard Bernstein, figure importante du Parti social-démocrate allemand et l'un des fondateurs de la social-démocratie européenne. Le débat tournait autour de la question de la compatibilité entre démocratie et capitalisme. L'histoire de l'évolution capitaliste au XIXe siècle montrait, selon Bernstein, non pas une série cumulative d'échecs de plus en plus aigus, mais un système résilient avec une capacité surprenante d'adaptation. Du point de vue économique, il y avait un certain nombre de nouveaux développements avec lesquels l'analyse marxiste devait compter. L'intensification du commerce extérieur, l'expansion du secteur bancaire et financier, le développement du système de crédit et l'émergence des cartels et des trusts. Du point de vue politique, la consolidation des classes moyennes, la montée des propriétaires et l'extension du droit de vote signifiaient que la représentation libérale ne pouvait plus être identifiée à la perpétuation de l'oppression par les élites dirigeantes. Il y avait désormais un espoir raisonnable que le fossé entre la sphère privée et la sphère publique, entre l'éthos du bourgeois et celui du citoyen, puisse être comblé. D'un côté, l'extension du droit de vote à des catégories de personnes auparavant privées des droits civiques. De l'autre, le renforcement des syndicats ouvriers et des coopératives, ainsi que les perspectives de succès électoraux pour les partis sociaux-démocrates de masse à travers l'Europe occidentale, rendaient difficile le fait d'assimiler la démocratie représentative à la consolidation de la domination de classe. La citoyenneté émergeait comme le nouveau concept permettant de plier les priorités du capital aux impératifs de l'État démocratique. Pourtant, comme beaucoup de critiques l'ont compris, la thèse réformiste de Bernstein, synthétisée dans la célèbre formule « le but final n'est rien pour moi, le mouvement est tout », posait un faux dilemme. Au cœur du dilemme de Bernstein, suggéré par exemple Rosa Luxemburg, se trouvait non pas un choix tactique, mais l'existence même du mouvement social-démocrate, comme force distinctive dans la lutte contre le capitalisme. Pour illustrer cela, son analyse combinait des arguments économiques et politiques et se concentrait sur la structure de la mondialisation et le rôle des États-nations dans un système économique financiarisé. Alors que Bernstein avait interprété les développements du système de crédit comme des mécanismes stabilisateurs au sein d'un ordre capitaliste, pour Luxembourg, la concentration du pouvoir économique par les détenteurs des monopoles, les corporations, les banques et d'autres institutions financières était un symptôme de vulnérabilité plutôt qu'un atout. En réponse aux remarques de Bernstein sur le rôle, par exemple, du crédit pour éviter l'effondrement capitaliste, elle soulignait que le capitalisme financier et la disponibilité des prêts aggravent la crise plutôt que d'y apporter une solution. Le crédit encourage la spéculation et élargit le fossé entre ce qu'on pourrait appeler l'économie réelle et l'économie fictive. En effet, si le crédit stimule initialement le développement des forces productives, il peut aussi conduire à des erreurs de calcul et de surproduction, cessant ainsi d'être utile dans le processus d'échange dès les premiers symptômes de stagnation. De même, les cartels et les trusts et les autres mécanismes de régulation conçus pour augmenter la coordination entre les détenteurs du capital ne peuvent réussir qu'en éliminant la concurrence interne dans les industries isolées, ce qui ne peut pas être étendu à tous les secteurs de production. De plus, les cartels réussissent à augmenter les taux de profit sur les marchés intérieurs, uniquement en vertu d'une expansion vers l'extérieur, en vendant à l'étranger les produits que la demande intérieure ne peut pas absorber. En d'autres termes, ces entreprises ne peuvent vendre à l'étranger à des taux de profit inférieurs que le produit qui ne peut être absorbé par les marchés intérieurs. L'autre face de la stabilité apparente du marché en Europe est une concurrence exacerbée à l'étranger et l'anarchie sur le marché mondial, l'opposé de ce que les cartels voulaient accomplir. Quand le marché mondial commence à se contracter, parce qu'il a été épuisé par la concurrence entre les pays capitalistes, le capital socialisé revient au capital privé et les organisations patronales, je cite Luxembourg, éclatent comme des bulles de savon et cèdent la place à la libre concurrence sous une forme aggravée. Cette critique des limites de l'État-nation pour contenir le capitalisme est ancrée dans une analyse du capital comme un ensemble de relations économiques, politiques et sociales à la portée mondiale. La caractéristique d'un système capitaliste de production, comme le soulignait Rosa Luxemburg, réside dans le fait que seuls sont produits les biens qui peuvent certainement s'attendre à se vendre, et non seulement à se vendre, mais à se vendre au profit habituel. Ce qui est nécessaire pour maintenir le marché capitaliste est donc premièrement la capacité des capitalistes à réaliser un profit garanti par la reproduction du capitalisme comme système. Deuxièmement, une demande suffisante pour absorber les nouvelles marchandises capitalistes portées sur le marché. Et troisièmement, une incitation à accumuler basée sur la perspective de nouveaux marchés pour absorber une production croissante. Cette étude de la structure de l'accumulation du capital prend en compte la nécessité d'accéder à de nouveaux marchés afin de vendre des biens de consommation que les travailleurs domestiques appauvris ne peuvent plus se permettre. Et sans la garantie d'un marché en expansion permanente, dans une économie déprimée avec une faible demande de biens de consommation, il n'y aurait pas aucune possibilité de réinvestissement du capital et aucun débouché pour les stocks de capital accumulés. Plus précisément, dans des conditions de paupérisation, d'inégalité et de domination, les publics domestiques ne seraient pas en mesure de générer la demande nécessaire pour absorber les marchandises. Les propres modes de consommation des capitalistes n'aident pas à résoudre le problème de la sous-consommation, puisque la classe capitaliste est poussée par l'impératif d'accumuler du capital et de réinvestir afin de suivre les pressions de la concurrence du marché. Cela conduit à la dimension mondiale de l'expansion du capital dans les zones non capitalistes du monde, par la conquête, le commerce, la violence et la guerre, qui fournit le type de débouché dont le capital a besoin pour être reproduit comme système. Les marchandises produites en masse qui peinent à être vendues sur le marché des États capitalistes développés deviennent disponibles dans d'autres parties du monde. Elle crée des opportunités d'investissement qui déplacent les modes d'organisation économique traditionnels et détruisent des formes alternatives de production économique. Cette analyse conduit à une compréhension de ce qu'on appelle l'impérialisme, l'expression politique de la concurrence entre capitalistes pour ce qui reste encore ouvert de l'environnement non capitaliste. Contrairement donc à la thèse du doux commerce de Montesquieu, selon laquelle le développement des relations commerciales apporterait la paix entre les nations, cette critique montrait comment la conquête impériale, le déplacement et la guerre garantissent la sujétion directe de vastes parties du monde au contrôle politique des pays capitalistes plus développés. Mais la guerre n'est pas la seule forme de domination internationale. D'autres formes subtiles de contrôle, par exemple sous la forme des prêts internationaux, créent une dépendance politique et économique qui place la politique étrangère et économique des jeunes États capitalistes directement sous l'influence de leurs maîtres néocoloniaux. Les prêts internationaux aident les territoires dépendants à acquérir les ressources nécessaires à la modernisation et au développement de leurs infrastructures tout en finançant l'exportation de capital des pays capitalistes avancés. Cependant, dans une économie financiarisée, avec l'investissement vient la spéculation, et quand les espoirs d'augmentation des taux de profit sont dessus, la dette vient hanter les économies nationales vulnérables et les pertes doivent être socialisées. Et cela déclenche une nouvelle crise encore plus profonde. Alors, les implications pour la social-démocratie nationale sont précises. Un socialisme organisé sur une base nationale, travaillant à travers les institutions parlementaires, remportant des victoires législatives, construisant des États-providence, tente de corriger au niveau national un système dont les contradictions opèrent au niveau mondial. Chaque gain national est vulnérable au pouvoir structurel du capital mobile pour relocaliser l'exploitation là où la résistance est la plus faible. Cette expansion n'est pas contingente. Elle n'est pas le résultat d'une cupidité individuelle ou d'une agression politique qui pourrait en principe être contenue par une meilleure réglementation au sein du mode de production capitaliste national. L'expression politique de cette nécessité structurelle est l'impérialisme et la guerre. La concurrence entre les États capitalistes dominants pour ce qui reste de l'environnement non capitaliste. L'assujettissement des économies périphériques aux exigences du capital métropolitain. Alors là, pensez au détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième du pétrole mondial, un point de passage dont le contrôle militaire est devenu l'un des enjeux stratégiques les plus disputés, précisément parce que les besoins énergétiques du capitalisme avancé ne peuvent pas se permettre de le laisser hors de portée. Cela ne signifie pas que les réformes nationales sont sans valeur, mais qu'un socialisme qui ne prend pas en compte la dimension mondiale de l'accumulation du capital sera toujours déjoué. Le réformiste qui remporte la bataille pour la redistribution au sein de l'État-nation, tout en laissant intacte la structure du capital international, n'a pas résolu le conflit, il l'a simplement différé. Une implication importante de cette interprétation concerne le nationalisme. La demande d'autodétermination nationale, aussi compréhensible soit-elle comme réponse à la domination impériale, ne peut pas servir de principal véhicule de l'émancipation socialiste. La raison n'est pas que l'identité nationale est sans importance, mais que si les rapports des forces étaient suffisants pour réaliser une véritable autodétermination nationale contre une puissance impériale, ces mêmes forces seraient suffisamment fortes pour défier le capital au-delà des frontières nationales. Un mouvement de libération nationale qui s'arrête à la réalisation de la souveraineté formelle, qui convertit le peuple de sujet d'un capital à sujet d'un autre, n'a pas résolu la condition de domination sous-jacente, mais a simplement changé son drapeau. La demande d'autodétermination nationale tend, dans les conditions du développement capitaliste, à faire le jeu des élites dirigeantes. Elle canalise l'énergie des opprimés dans un projet, la construction d'un État national, qui laisse intacte la structure de rapport de propriété capitaliste. Et ce n'est pas un argument contre l'identité nationale ou la particularité culturelle. C'est un argument sur les limites de l'État-nation comme principal véhicule d'émancipation dans les conditions du capitalisme mondial. Et cela soulève, avec une urgence particulière, la question que la deuxième partie de cette leçon aborde. Si l'État-nation est structurellement inadéquat, quelle forme alternative d'organisation politique peut à la fois affirmer les communautés nationales et transcender les limitations de la souveraineté nationale? Si l'État-nation est un véhicule inadéquat pour l'émancipation socialiste, si le capital opère toujours à un niveau que la politique nationale ne peut pas attendre, s'ensuit-il que l'identité nationale elle-même est un obstacle à surmonter? L'horizon cosmopolite du socialisme moral est-il un horizon qui exige l'érosion de cultures nationales particulières? La réponse que je veux soutenir est non. Et les ressources les plus sophistiquées pour comprendre pourquoi viennent d'une interprétation de la pensée socialiste qui tente de réunir les trois concepts que l'analyse précédente marxiste a maintenu séparés. L'État, la nation, la classe. Après le cosmopolitisme, je vais y retourner. Alors pourquoi, pour comprendre pourquoi cette synthèse est nécessaire, nous devons revenir à mon point de départ. La tradition libérale fonde la justification de l'État dans les principes du droit, le contrat original qui garantit les relations de liberté au sein d'une communauté politique. L'horizon cosmopolite est présent. Kant, par exemple, insiste sur le fait que les relations de droit au sein de l'État ne sont pas stables si le droit cosmopolitique n'est pas lui aussi présent. Mais le cosmopolitisme reste un horizon téléologique plutôt qu'une proposition institutionnelle. En réalité, l'État-nation incarne la forme institutionnelle dans laquelle la liberté se réalise et la question de ce qui arrive aux communautés nationales qui n'ont pas d'État ou aux États multinationaux qui contiennent de multiples communautés nationales reste aussi largement non résolue. En revanche, la tradition marxiste se concentre sur la relation entre l'État et la classe plutôt que sur l'État et la nation. L'État reflète l'équilibre entre les forces de classe à tout moment historique particulier. L'identité nationale, dans ce cadre, tend à être traitée comme une idéologie, un mécanisme par lequel la classe dirigeante déguise les intérêts particuliers du capital en intérêts universels de la nation, et par lequel les travailleurs sont divisés selon les lignes nationales, précisément au moment où leur position structurelle dans les rapports de production leur donne un intérêt commun qui transcende ces lignes. Alors, les deux traditions, libérales et marxistes, prises séparément, laissent quelque chose d'important de côté. La tradition libérale ne peut pas rendre compte du caractère de classe de l'État et de la façon dont le pouvoir économique concentré distord la formation nationale populaire qu'elle présuppose. La tradition marxiste orthodoxe tend à dissoudre l'identité nationale dans l'identité de classe. Alors, une synthèse plus productive vient de la tradition austro-marxiste, donc la kantien marxiste. Cette tradition commence par une clarification conceptuelle importante, la différence entre la nation et l'État. L'État est une institution territoriale. Il revendique la souveraineté sur un territoire particulier, exerce un monopole sur l'usage de la force et réglemente les relations entre les personnes par le droit. La nation est quelque chose de différent, comme l'a souligné l'austro-marxiste Otto Bauer, nous l'avons rencontré. C'est une communauté de caractère liée par une langue partagée et une pratique culturelle. Les nations et les États se chevauchent fréquemment, mais pas nécessairement. Les Basques et les Catalans sont des nations sans État. La France est une nation qui est aussi un État. La demande que chaque nation ait son propre État n'est pas une exigence logique, mais un programme politique historiquement contingent. Dans certaines parties de l'Europe, elle est née de la confrontation avec les empires. Dans l'autre, comme l'histoire du XXe siècle le montre avec une clarté terrible, elle a généré plus de violence qu'elle en résout. Le mouvement théorique crucial est de découpler la nationalité de la territorialité de l'État. Si l'identité nationale est fondamentalement une question de communauté de caractère, donc d'histoire partagée, de culture, de langue, alors elle ne nécessite pas nécessairement d'un État territorial pour sa réalisation. Une personne peut appartenir à une communauté nationale sans que cette communauté ait un contrôle souverain sur un morceau de terre particulière. Et dans les conditions modernes, avec l'évolution des technologies de communication, la circulation de la culture à travers les frontières, la possibilité de maintenir l'identité collective à travers la diaspora, le lien historique entre la communauté nationale et la contiguïté territoriale est plus faible qu'il n'a jamais été. Si les nations peuvent être séparées du territoire, elles peuvent aussi être détachées de l'État comme institution territoriale. La nation peut se développer dans un cadre institutionnel qui n'est pas l'État-nation. Le capitalisme, cependant, rend cela très difficile, sinon impossible en pratique. Le capitalisme exige la concurrence entre les entreprises, entre les secteurs et finalement entre les États qui fournissent le cadre institutionnel dans lequel le capital opère. Cette dynamique concurrentielle favorise structurellement les forts sur les faibles. Les États capitalistes dominants, avec leurs forces productives plus évolues, leur contrôle de la finance internationale, leur capacité à fixer les termes des échanges, sont en mesure de subordonner les États plus faibles à leurs exigences. Donc, l'égalité formelle des États-nations dans l'ordre international masque une profonde inégalité structurelle qui n'est pas accidentelle, mais générée par la logique de la structure capitaliste. Sans surmonter le capitalisme, les nations resteront dans une structure de hiérarchie et le capitalisme, dans sa relation à l'impérialisme, domine inévitablement les nations de manière à compromettre la possibilité d'une égalité authentique entre les nations. Alors, nous pouvons voir cette dynamique à l'œuvre dans la tentative la plus ambitieuse de construction institutionnelle transnationale dans le monde contemporain. L'Union européenne se présente comme un projet de coopération multinationale, un cadre dans lequel différentes communautés nationales peuvent, en principe, coexister et collaborer au-delà de l'État-nation. Et, à certains égards, c'est le cas. Mais son institution centrale n'est pas une assemblée démocratique des peuples ou des nations. C'est le marché libre et la banque centrale dont la fonction principale est de coordonner le capital entre les États membres, donc les États-nations. Les principales libertés que l'Union européenne garantit sont la liberté de circulation du capital et la liberté de circulation de la force de travail. Les groupes nationaux se trouvent à la merci de ces deux dynamiques simultanément. D'un côté, engloutis par des institutions transnationales pilotées par le capital qui fixe les termes de leur vie économique de l'extérieur, de l'autre, générant des mouvements sous-nationalistes réactifs, partis régionalistes, impulsions sécessionnistes, demandes de reprise de contrôle, qui fragmentent la solidarité sans s'attaquer à ses causes structurelles. L'Union européenne est en ce sens une institution transnationale pilotée par le capital plutôt qu'un véritable effort cosmopolite. Et c'est précisément sur cette distinction sur laquelle un cosmopolitisme socialiste doit insister. Je vais y revenir. Donc, le véritable épanouissement transnational, le développement égal des différentes communautés nationales, est impossible sous le capitalisme. C'est pourquoi les premiers fédéralistes européens, comme Altiero Spinelli, envisageaient, dès les années 40, depuis leur confinement à Ventotene, une Europe fédérale et socialiste. Après l'éclatement des empires et des ordres post-impériaux, après la dissolution de la Yougoslavie et de l'Union soviétique, après le démembrement du Moyen-Orient, nous n'avons pas un monde culturellement pluraliste, où différentes langues, pratiques, cultures peuvent fleurir. Nous nous retrouvons avec une culture homogène, américaine, où tout le monde regarde les productions hollywoodiennes sur Netflix, apprend l'anglais et achète sur Amazon. Cela implique que le cosmopolitisme authentique, comme l'égalité des nations dans un cadre cosmopolite du monde, exige de surmonter le capitalisme et non simplement de le réformer. Et la forme institutionnelle qu'un cosmopolitisme post-capitaliste pourrait prendre n'est pas l'abolition des communautés nationales, mais leur réorganisation au sein des structures fédérales mondiales qui permettent une véritable autonomie sans la domination hiérarchique que la concurrence capitaliste génère. Alors, l'avenir est celui d'une structure fédérale transnationale socialiste. Et ici, l'Union européenne est une forme embryonnaire inspirante, capable de placer le développement des communautés nationales au centre de l'organisation politique, au sein d'une institution multinationale qui applique le principe de subsidiarité. Les nations sont parfaitement habilitées à gouverner leur vie culturelle et sociale, précisément parce que dans le fédéralisme socialiste, le motif de profit qui les force actuellement à la subordination compétitive vient remplacer par un différent principe de coopération sociale. Alors, la division internationale du travail devient totalement coopérative. Différentes régions contribuent selon leurs atouts naturels et leurs capacités particulières et échangent selon leurs besoins. Une forme d'organisation respectant la liberté, l'égalité et l'indépendance est étendue des relations entre individus au sein de l'État aux relations entre nations au sein d'un cadre institutionnel mondial. Les deux séries d'arguments présentées jusqu'ici, la critique structurelle du capitalisme comme système mondial et la théorie des limites de l'État-nation, sont de puissantes contributions à un cosmopolitisme socialiste. Mais elles ne sont pas encore suffisantes en elles-mêmes. Alors, la critique structurelle nous dit pourquoi le socialisme organisé sur une base nationale sera toujours déjoué par le capital. Le deuxième argument nous dit comment les communautés nationales peuvent être affirmées sans l'État-nation, comme leur véhicule institutionnel exclusif. Ce que ni l'un ni l'autre nous dit, ou pas encore, pas directement, c'est pourquoi le cosmopolitisme n'est pas seulement une nécessité stratégique, une réponse aux conditions structurelles du capitalisme, mais une exigence qui découle des maximes des Lumières via la réalisation externe des principes de droit. Alors, laissez-moi donc associer cette leçon au cadre des questions que j'ai posées tout au long du cours. Rappelons les trois principes du droit qui ont été le fondement de notre analyse politique, la liberté, l'égalité et l'indépendance, et rappelons comment, dans la leçon précédente, nous avons montré que ces trois principes génèrent, lorsqu'ils sont appliqués aux conditions d'une société mal ordonnée, trois dimensions correspondantes de la légitimité politique, c'était l'autolibération, la règle juste et la volonté publique. Pour la grande majorité des personnes dont la vie est façonnée par les décisions des institutions financières internationales, des corporations transnationales et des politiques des États dominants, les décisions politiques sont prises sans aucune voix authentique dans la façon dont les structures se forment, les affectent ou sont ensuite interprétées et transformées. Il manque de liberté d'agir au niveau mondial. Exactement de la même façon que les travailleurs dans l'État capitaliste en manquent au niveau national. Alors, c'est le point où le cadre du socialisme moral se distingue définitivement du cosmopolitisme abstrait que beaucoup critiquent à juste titre. Le cosmopolitisme abstrait tend à dériver des obligations cosmopolites d'une théorie morale générale indifférente aux conditions structurelles qui produisent la domination mondiale. Il nous demande, le cosmopolitisme moral, d'étendre notre souci moral à toute l'humanité comme un acte d'élargissement éthique, d'expansion du cercle de ce qui donc nous nous soucions. Le problème est que le souci moral, sans transformation structurelle, est politiquement vide. On peut reconnaître la valeur égale de chaque personne à travers les frontières, pendant que les mécanismes structurels qui produisent l'inégalité continuent de fonctionner sans être perturbés. Alors, c'est aussi le point auquel mon cosmopolitisme moral socialiste répond directement au défi de Gramsci. Gramsci avait raison de dire que le cosmopolitisme abstrait, le cosmopolitisme de l'intellectuel détaché qui flotte au-dessus des formations politiques dans lesquelles la lutte se déroule, et à la fois politiquement inefficace et théoriquement confus. Mais le cosmopolitisme que j'essaye de proposer ici ne prend pas cette forme. Donc ce n'est pas une forme purement morale. Il ne nous demande pas d'abandonner nos attachements particuliers, mais de reconnaître que les mêmes conditions structurelles qui rendent la liberté authentique impossible au sein de l'État-nation capitaliste la rendent aussi impossible au niveau mondial. Et que les mêmes principes qui orientent la lutte pour la liberté au niveau de l'État orientent aussi la lutte au niveau mondial. De plus, et c'est ici le lien avec la tradition austro-marxiste que je viens de mentionner, Ce cosmopolitisme n'exige pas la dissolution des communautés nationales. Il exige leur réorganisation au sein de formes institutionnelles adéquates au caractère mondial des conditions structurelles qui la contraignent. L'horizon cosmopolite, l'idée que les relations de droit au sein de l'État ne sont pas stables si le droit cosmopolitique n'est pas lui aussi réalisé, s'avère, dans la lecture du socialisme moral, être une aspiration téléologique, bien sûr, comme on l'a vu en Kant, mais aussi avec un contenu politique précis. Il s'oriente vers des unions fédérales transnationales construites sur des institutions socialistes comme cadre le plus complet pour penser la liberté mondiale. Et vous vous souvenez ma définition du socialisme dans le premier cours, qui était que le socialisme aspire à la réalisation la plus complète de la liberté. Alors maintenant, permettez-moi de rendre cela concret avec la question politique la plus urgente autour de laquelle tournent toutes les discussions sur le nationalisme, le socialisme et le cosmopolitisme. Et c'est le problème des frontières et de la migration. Les frontières sont dites être le problème de notre temps. Et certes, les frontières sont un problème, mais pas parce qu'il existe une question civilisationnelle ou de conflit entre les nations qui doit être résolue pour établir qui appartient et qui n'appartient pas. Vous vous souvenez de la question de ma grand-mère. Qui êtes-vous? Où est votre pays? Où est votre patrie? Pas parce qu'il y a un problème d'adaptation culturelle de certains groupes par rapport aux autres, et certainement pas parce que, comme Giorgia Meloni l'a récemment dit à Donald Trump, l'Occident devrait devenir grand encore une fois, et la migration représente un défi à cet objectif. En effet, il n'y a rien de plus insultant pour les Maximes des Lumières que l'idée qu'il existe une seule civilisation, une seule nation, un seul État qui incarne la vérité et les valeurs du vivre ensemble, pas même la civilisation européenne. Alors toute discussion sur la migration en Europe doit partir de là. Pas de l'effort de distinguer entre bons et mauvais migrants, entre migrants utiles et migrants qui ne le sont pas, entre migrants qui sont un bénéfice et migrants qui sont un fardeau, entre migrants qui obéissent à la loi et migrants qui suivent leur loi propre, entre migrants économiques et demandeurs d'asile, entre migrants qui méritent l'hospitalité et migrants qui doivent faire face à la déportation. Prendre en compte la migration comme un problème, c'est en fait comprendre qu'elle n'est pas un problème en tant que tel. C'est comprendre la pente dangereuse impliquée dans la normalisation de cette position dans le discours politique et de comprendre que la migration est un symptôme, pas une cause. Et le problème est politique et pas culturel. Et la question n'a rien à voir avec les migrants eux-mêmes, mais tout à voir avec la crise du capitalisme dans l'État-nation, une crise que les migrants n'ont pas provoquée et qui ne s'aggrave pas à cause d'eux. Alors là, le problème vrai est l'hégémonie de la droite sur le discours migratoire et l'incapacité, la manque de courage, pour reprendre les termes des Lumières, à penser de manière critique, à penser au-delà de l'idéologie et de la propagande qui tente de nous persuader du contraire. Mais l'alternative peine à émerger parce que même ceux qui rejettent des politiques migratoires spécifiques ont adhéré au discours culturel. Parce que beaucoup de progressistes ont abandonné l'universalisme et les Lumières, et au lieu de remettre en question les termes culturels par lesquels la migration est encadrée, ils offrent leur propre version. Et parce que la gauche a abandonné la critique du capitalisme mondial et a embrassé le langage de la culture et l'a remplacé en diagnostic social, économique et politique du monde globalisé, du capitalisme, par un diagnostic identitaire. La promesse de la droite est, si vous voulez résoudre la question de qui appartient, vous avez résolu les conflits de notre temps. Mais la migration, comme je dis, n'est pas la source du problème, elle est plutôt le symptôme de la crise du capitalisme et de l'État-nation dans un monde mondialisé. La question du progrès politique n'est désormais vue que comme question d'émancipation au sein de l'État-nation, de qui façonne et promulgue les lois, de qui est inclus et qui est exclu. En d'autres termes, elle est devenue une question de régulation des termes de l'appartenance politique. Et la migration est perçue comme problème parce que l'appartenance à l'État-nation est vue comme la solution. Si les guerres culturelles sont si saillantes, c'est parce qu'elles portent sur le contrôle des frontières d'un groupe social, y compris la question de qui peut parler au nom de ce groupe. S'il n'y a pas d'alternative pour remettre en question cette façon de penser le problème, si nous sommes incapables de penser le rôle de la culture, de l'État-nation et de son lien avec la démocratie et la sorte de la démocratie sans le capitalisme, il est difficile de voir comment toute solution proposée ne finira pas par faire le jeu de la droite. Et pourtant, il n'est pas très difficile de déconstruire le discours de la droite sur la migration. Alors, considérons un exemple récent. Les mêmes semaines où, à la Maison-Blanche, on publiait des vidéos des immigrants irréguliers littéralement enchaînés lors de leur embarquement dans des vols d'expulsion, Donald Trump annonçait ses plans pour vendre la résidence américaine et une voie vers la citoyenneté pour 5 millions de dollars à des individus riches postulant pour les Golden Green Cards. Et ce n'est pas un cas isolé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'espoir de la social-démocratie de Bernstein au début du XXe siècle était que la démocratie, au sein de l'État-nation, apporterait l'abolition des différences de classe, de genre, de race, et ainsi de suite. Et dans les mots de Bernstein, les partis et les classes qui les soutiennent apprennent bientôt à reconnaître les limites à leur pouvoir. Et c'était l'aube d'une ère où les barrières de propriété, d'alphabétisation et d'expertise technique étaient supprimées grâce à la mobilisation politique pour élargir le droit de vote. Ces conditions ne sont plus en place. La tendance est en fait précisément inverse. Si, dans l'âge d'or de la citoyenneté expansive, la démocratie promettait de guérir l'État-nation des effets potentiellement destructifs du capitalisme et des conflits de classe, dans notre âge de la citoyenneté restrictive, la lutte ne peut plus être contenue dans les canaux standards de participation politique au sein de l'État-nation. Une fois que la citoyenneté redevient une citoyenneté que pour quelqu'un, un bien à vendre, à acheter, à échanger, la démocratie nationale dégénère en une forme d'oligarchie à travers laquelle les élites aisées contrôlent le pouvoir politique. Et quand la citoyenneté est achetée et vendue, au lieu d'être un véhicule d'émancipation politique, elle devient un véhicule d'oppression. Et cela consolide, plutôt qu'il ne l'érode, le caractère de classe de l'État. Dire que l'État a un caractère de classe revient à dire que l'État perd sa capacité à agir comme la plateforme politique à travers laquelle les conflits entre groupes sociaux sont équilibrés. Au lieu de cela, l'État devient un instrument qui sert à récompenser les membres des groupes ayant plus d'argent et de pouvoir et à contraindre et punir tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'exige une véritable alternative ? De rejeter la réduction de la démocratie à l'appartenance et du conflit politique au conflit culturel. De situer la question de la migration dans le contexte de la domination mondiale apportée par le déclin de la social-démocratie nationale, suivi de l'impunité des employeurs cherchant le profit qui mettent les pauvres en concurrence l'un contre les autres, qu'ils soient natifs ou migrants. Et il faut une discussion plus approfondie sur les raisons pour lesquelles il y a de la migration, asymétrique entre le sud du monde et le nord du monde et des causes de cette migration, de ces pressions migratoires, c'est-à-dire les guerres et la façon dont leur instrumentalisation par le capital transnational contribue au flux migratoire. En bref, il faut une discussion sur la façon dont la crise de la social-démocratie est liée non pas à la montée des conflits culturels, mais à la mondialisation qui étrangle l'État-nation, à des décennies sociales de politiques sociales et économiques, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conçues pour autonomiser le capital organisé et défranchiser les personnes vulnérables. Alors, encore une fois, le problème n'est pas la simple existence des frontières ou la présence des frontières plus ouvertes ou plus fermées, comme certains préfèrent construire le dilemme migratoire. Personne ne se préoccupe si les Allemands viennent en France ou si les Australiens vont aux États-Unis. Ça, ce n'est pas le problème des frontières en tant que ça. Le problème, ce sont les frontières asymétriques, donc les asymétries de pouvoir dans le monde qui provoquent ces pressions migratoires. Et le problème, c'est que les exclusions au sein de l'État et entre les États se soutiennent mutuellement et servent à ancrer davantage un ordre économique et politique qui n'est jamais contesté dans son cœur. La pratique qui consiste à vendre la citoyenneté aux riches et d'en restreindre l'accès à ceux qui ont peu de moyens matériels, d'éducation ou de compétences civiques nous raconte une histoire très importante sur la relation entre le capitalisme et l'État-nation. Et si nous ne changeons pas la façon dont nous concevons cette relation, nous irons sur une pente glissante où d'abord on pourchassera les migrants irréguliers, puis les non-citoyens résidents, puis les citoyens dont les noms sont Mohamed et Abdallah, comme autrefois on pourchassait les Goldschmidt et les Levy. Est-il difficile de voir comment cela arrivera? Peut-on dire que nous l'avons jamais vécu auparavant? Et c'est pour ça que j'ai commencé avec Stefan Zweig. Mais je voudrais terminer en revenant aux Lumières. Et j'ai commencé ce cours en disant que les Lumières étaient pour beaucoup de leurs philosophes un projet politique et pas seulement moral. Le projet consistant à rejeter les institutions qui ne représentent pas chaque être humain, la critique publique des idées qui favorisent un groupe ethnique, religieux ou racial, une classe, une communauté politique plutôt qu'une autre. Cet abandon de l'esprit cosmopolite des Lumières, précisément au moment où il est le plus nécessaire, est tragique, mais pas entièrement une coïncidence. La valeur que l'Europe proclame si fièrement, si unilatéralement et sans réserve, valent très peu si elle ne s'applique qu'à quelques-uns. Alors la migration, les injustices que la migration révèle, sont en première ligne de cette lutte pour les Lumières. Car c'est sur cette question, et non pas sur la promesse de rendre l'Occident grand à nouveau, mais dans l'engagement envers la liberté, l'égalité et un monde dans lequel personne n'est forcé à quitter son pays, que les promesses de liberté, y compris la liberté, l'égalité et l'indépendance européenne, sont les plus durement mises à l'épreuve. Dans cet esprit, la semaine prochaine, je vais vous parler d'espoir et de révolution. Bonne soirée. Au revoir.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.